Ça ira mieux. Donc, je vais balayer assez rapidement la mise en place d'un régime taliban à la suite du 15 août dernier et la réponse internationale qui s'en est suivie. Avant d'aborder, conséquence directe de tout cela, l'état économique et sécuritaire du pays et d'aborder très brièvement le rôle du Pakistan. Qui a déjà été en grande partie abordé, mais là, je vais plus mettre en perspective et afin de vous laisser justement essayer de susciter des questions plus que d'apporter des réponses. Tout de suite après la prise de pouvoir des talibans, qui vraiment était quelque chose, je pense, plus inattendu pour eux que pour les puissances extérieures et étrangères. Faut savoir que les talibans, je pense, vraiment ne s'attendaient pas à une victoire militaire aussi facile. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous confirment qu'ils n'étaient pas prêts à prendre le pouvoir. Ils avaient pris beaucoup d'engagements, ça a été signalé lorsqu'il y a eu un accord avec les Américains en février 2020, l'accord de Doha. Aucune des conditions qu'ils devaient remplir n'ont été respectées. Bon, malgré cela, des exigences, des nouvelles extrêmement drastiques ont été imposées. D'ailleurs, la France est en tête pour imposer ou pour exiger quelques conditions. Je les cite très rapidement, la liberté pour tous les Afghans qui souhaitaient quitter le territoire afghan de pouvoir le quitter sans entrave, la liberté de circuler. Et d'accéder pour les agences internationales, institutionnelles ou privées, pour apporter de l'aide humanitaire. Le respect des droits fondamentaux, et notamment, bien sûr, on pense tous aux droits des femmes qui ont connu une avancée exceptionnelle au cours des 20 dernières années et forcément un recul tout aussi phénoménal au cours des derniers mois. L'instauration d'un gouvernement inclusif. Alors, ça n'a pas été précisé, mais on peut imaginer que c'est inclusif, c'est-à-dire qui s'ouvre aux autres courants politiques que les talibans, qui s'ouvre aussi aux autres ethnies que les Pachtounes, constituent vraiment la majorité des talibans. Et la dernière condition était celle qui intéresse peut-être le plus les pays étrangers, sur lequel il y a un consensus d'ailleurs international, c'est empêcher que l'Afghanistan, le seul Afghan, redevienne un sanctuaire pour les groupes terroristes internationaux. Ces conditions étaient d'ailleurs reprises par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU quelques jours avant qu'un gouvernement intérimaire afghan soit nommé, 3 semaines après la prise de Kaboul, le 7 septembre. Sa composition et les premières décisions qui ont été prises, d'ailleurs, étaient assez inquiétantes, car en contradiction totale avec les exigences qui avaient été émises. Pour aller rapidement et de manière extrêmement synthétique, ce gouvernement montrait très bien les failles et les limites de ce gouvernement, de ce mouvement taliban qui a pris le pouvoir par la force et de manière assez rapide, alors que le gouvernement était assez hétéroclite au final. Celui qui a vraiment émergé comme la grande puissance, la faction des talibans, c'est incontestablement le groupe, le réseau Haqqani, que l'on sait proche du Pakistan, mais aussi d'Al-Qaïda et de toute la mouvance djihadiste internationale, adepte du terrorisme. Il se démarque vraiment des talibans traditionnels, on va dire, ceux qui composent principalement le bureau de politique de Doha, ceux qui négocient, on va dire, ceux qui constituent les talibans historiques, ceux qui avaient pris le pouvoir, qui occupaient le pays de 1996 à 2001, qui, eux, avaient en quelque sorte compris qui s'était pas assez ouvert au monde, qui n'avait pas écouté la communauté internationale et qui avait dû quitter le pouvoir pour justement ne pas avoir assez écouté. Et donc, il y a ces deux grands groupes, factions, qui dominent le gouvernement, cohabitent difficilement. Et vous avez un autre groupe qui monte, une faction, c'est celle du Mollah Yacoub. Mollah Yacoub est le fils du Mollah Omar, l'émir du premier émirat taliban, qui est encore une faction un peu mineure, mais qui monte, étant donné que maintenant il est ministre de la Défense. Donc, les premières décisions, comme je vous l'ai dit, ne sont pas allées du tout dans le sens des exigences internationales. Je vais expliquer les conséquences dramatiques que cela a entraîné, un peu cette césure entre la communauté internationale et les talibans. La plupart des talibans, je crois 27 sur 33, étaient sur les listes de sanctions internationales de l'ONU. Ce qui faisait que, en fait, on a de fait un gouvernement constitué de terroristes reconnus en tant que tels, de manière officielle. Ce qui empêche, en fait, tout simplement à l'aide internationale qui permettait au pays de rester, d'être viable économiquement, s'interrompre soudainement, c'est-à-dire que la Banque mondiale, qui fournissait une grande partie du budget de l'État afghan, cesse ses paiements. Les gels de tous les avoirs de la réserve nationale, de la Banque nationale afghane, ont été gelés, les avoirs qui étaient à l'étranger. Ce qui fait qu'en fait, tout d'un coup, l'État, qui de toute façon était en décomposition totale, la plupart des administrateurs de la Banque nationale, des banques, de l'État, des ministères, avaient quitté le pays lors des 15 premiers jours qui suivaient la prise de pouvoir, à la fin du mois d'août. Ce gel des avoirs, avec cela, l'effondrement de l'aide internationale vers la disparition soudaine, a conduit à un effondrement de l'économie. Pour vous dire, 30%, il y a une contraction du PIB du pays sur 3 mois de 30%. Les chiffres sont toujours un peu difficiles et assez peu fiable pour ce qui constitue l'Afghanistan. Néanmoins, ça nous donne quand même une ordre de grandeur. Bien sûr, il y a une inflation, étant donné qu'il y a une crise de liquidité, le système bancaire s'est effondré, les gens ne peuvent plus sortir d'argent. Il y a forcément les rares denrées qui arrivent à rentrer le pays, un pays qui produit finalement peu et qui importe beaucoup. Nous avons une pénurie dans tous les domaines, les denrées alimentaires, les combustibles. Lorsqu'on arrive, comme ça a été indiqué, c'est un pays où les gens habitent dans des conditions, dès qu'arrive l'hiver, c'est-à-dire à partir d'octobre, les conditions de vie sont extrêmement difficiles lorsqu'on n'a plus accès à du bois, lorsqu'on n'a plus de gaz, d'électricité, ce qui est le cas pour une très grande majorité de la population dorénavant. Tous ces fléaux réunis conduisent forcément à une situation actuelle de début de famine. 97% de la population d'ici du milieu de l'année, d'ici cet été, tombera en dessous du seuil de pauvreté. 97%. Donc on a presque une quasi-paupérisation de la totalité de la population afghane, sauf bien sûr les 3% qu'on peut imaginer comme étant des nantis et des gens près du pouvoir. 22 millions d'Afghans, c'est-à-dire les deux tiers de la population, un peu plus de la moitié, survivent grâce à l'aide internationale qui, finalement, grâce à un relâchement, on va dire un assouplissement des sanctions internationales à partir de la fin décembre, permet un flot d'aide internationale, notamment alimentaire, afin d'éviter une famine meurtrière. Comme je vous l'ai dit, les services publics et on peut dire l'État a disparu. La remise en marche se fait extrêmement lentement. Les talibans, comme je vous l'ai dit, n'étaient pas préparés au pouvoir et ne s'y étaient pas préparés de toute façon. Et on montre une très faible appétence à vouloir d'ailleurs exercer un pouvoir, une gouvernance efficace, étant donné que leurs décisions étaient quand même principalement centrées sur une imposition de marqueurs sociaux qui marquent un peu leur marque de fabrique afin de satisfaire finalement ceux qui les avaient soutenus et amenés au pouvoir. Une véritable chape de plomb s'est abattue sur la société afghane qui avait connu les fruits de la liberté, de la démocratisation, de la liberté de presse pendant deux décennies. L'opposition est bien sûr bâillonnée, toute forme d'opposition. la presse est muselée. On estime que 70 à 80% des organes de presse ont disparu ou cessé de fonctionner. Et bien sûr, les anciens cadres du régime, malgré une amnistie proclamée, annoncée par les porte-paroles et le gouvernement, qui n'est pas du tout respectée, étant donné qu'il y a des persécutions et des assassinats ciblés des anciens cadres de l'armée ou des services, des services administratifs du régime déchu. Et sinon, à côté de cette catastrophe humanitaire et de cette chape de plomb qui s'abat sur la société, il y a aussi la réapparition de ce que justement les talibans avaient dit qu'ils allaient arrêter, c'est-à-dire mettre fin à l'insécurité dans le pays. C'est l'émergence ou la réémergence de l'État islamique qui avait perdu du terrain au cours des dernières années et qui a retrouvé toute sa vigueur en lançant une campagne d'attentats à travers le pays, ciblant principalement les milices talibes et la communauté hazara chiite, essayant de créer une scission ou une division confessionnelle dans le pays. Mais il faut dire que presque tous les groupes, à part l'État islamique, tous les groupes djihadistes de la région, voire à l'international, ont salué la victoire des talibans, la prise de Kaboul le 15 août, ce qui montre assez bien finalement, et d'ailleurs certains d'entre eux ont d'ailleurs prêté allégeance, notamment les talibans pakistanais, ce qui montre assez bien finalement l'aura et l'alignement des talibans qui, pour une grande partie d'entre eux, ne sont pas des djihadistes. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, une visée nationale et non pas transnationale, telle qu'Al-Qaïda ou l'État islamique. Néanmoins, ceux qui ont pris le pouvoir réellement, de manière concrète, c'est-à-dire le réseau Haqqani, eux, ont des velléités transnationales et sont des soutiens de la cause djihadiste et notamment ont des liens assez proches avec le Tehrik-e Taliban Pakistan, c'est les talibans pakistanais, qui se battent contre l'État pakistanais. Aussi, faut-il rappeler que le réseau Haqqani est très proche d'Al-Qaïda. Donc, l'exigence, il faut savoir que le réseau Haqqani aujourd'hui est puissant. Le ministre de l'Intérieur, Sirajuddin Haqqani, est le ministre de l'Intérieur. On peut difficilement imaginer que le ministre de l'Intérieur, qui est allié de fait avec Al-Qaïda, puisse garantir que le sol afghan ne soit pas utilisé à des fins terroristes. Donc, on voit que la situation, ne serait-ce que terroriste, est problématique, et même si le gouvernement peut se targuer d'avoir maté toute forme de rébellion, il reste une poche de résistance dans la vallée du Panjshir. Même si la vallée principale a été conquise, on se souvient en fin août, début septembre, la résistance du fils du commandant Massoud, le commandant Ahmad Massoud, qui porte le même nom. Sa résistance lui-même a dû quitter le pays, mais les sous-vallées, on va dire, les vallons qui sortent de manière arborescente de la vallée, sont pour la plupart encore occupées par cette résistance qui, de toute façon, ne pourra difficilement. Une fois le printemps revenu, pourra difficilement réellement créer un foyer durable et croissant de contestation du pouvoir taliban. Donc, on voit qu'il y a une poche réduite qui n'est aujourd'hui pas en mesure de contester la domination des talibans, qui sont amenés à rester, visiblement parce que la contestation est divisée. La diaspora, tous les chefs de guerre qui se sont fait battre sans réelle résistance, alors qu'ils avaient prôné de défendre la République, sont tous à l'étranger et ne montent pas un front uni. Je vais finir sur le rôle du Pakistan, comme l'a très bien indiqué l'ambassadeur Joanneau. Taliban Khan, comme le sobriquet qui lui est souvent donné, Imran Khan, s'était félicité de l'arrivée au pouvoir des talibans, libérant l'Afghanistan d'une forme d'esclavage. Il faut voir aussi que le Taliban, vers le Pakistan, n'a pas appuyé sur un bouton. Comme vous l'avez indiqué, ils n'ont pas tous les leviers sur les talibans. Ils ont une influence, c'est sûr, le Premier ministre pakistanais ou le chef de l'armée de terre n'appuie pas sur un bouton et pour contrôler les talibans tel que c'est souvent montré. C'est extrêmement compliqué. Il y a un rapport de force qui s'installe. Comme vous l'avez indiqué, monsieur l'ambassadeur, les talibans essaient de s'extraire de cette influence un peu pernicieuse et dominatrice du Pakistan. Mais néanmoins, ils ont besoin de tous ces alliés. Donc, ils vont essayer de s'éloigner du Pakistan tout en essayant d'utiliser le Pakistan pour s'ouvrir sur l'international. Ils vont essayer de faire la même chose à travers leur bureau de Doha. Et tous ces pays-là vont forcément se livrer à une concurrence pour être la porte d'entrée ou le point de rencontre entre la communauté internationale et le Pakistan et l'Afghanistan. Comme vous l'avez indiqué, le problème frontalier demeure. Les talibans ont empêché l'édification d'une l'érection d'une 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 muraille sur la frontière entre les deux pays, ce qui montre très bien que les talibans ont intention de montrer qu'ils sont des nationalistes afghans ou pas simplement un mouvement islamiste. Non, mais Pashtun, en effet. Oui, c'est les talibans. Ils se prétendent comme étant pan-afghans et pas pan-pashtun. Ils sont crédités pour l'être. Et d'ailleurs, 84% du gouvernement est de composition pashtun, ce qui montre très bien leur forte propension à être des pashtuns et non pas des afghans au-delà des différences ethniques. Un autre symbole aussi du fait que les talibans ne sont pas soumis entièrement au Pakistan, même si le Pakistan a une forte influence auprès d'eux, c'est la recrudescence, comme je vous l'ai dit, des attaques des talibans pakistanais contre l'État pakistanais. La plupart des talibans, les leaders des talibans pakistanais qui étaient dans des prisons du régime de la République islamique d'Afghanistan, ont été libérés lorsque les talibans sont saisis des bases, notamment celle de Bagram. Et d'ailleurs, la prise de pouvoir des talibans à Kaboul s'est suivie d'une recrudescence des attaques contre le Pakistan par les talibans pakistanais, qui ont repris vigueur, un peu comme l'État islamique a repris vigueur contre les talibans. Ce qui montre que le Pakistan, en soutenant les talibans, était prêt à payer le prix d'une forme d'insécurité émanant justement de ce groupe terroriste particulièrement meurtrier. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une influence à double tranchant, surtout que aujourd'hui, le Pakistan, qui est sous la surveillance internationale pour justement ses accointances ou son laxisme dans la lutte contre terroristes, risque à nouveau de subir les sanctions et les foudres des puissances, notamment occidentales, qui sont particulièrement à cheval sur le sujet, le contrôle du terrorisme international. Et surtout, la crise actuelle en Afghanistan, la crise humanitaire, est en grande partie le fruit de l'influence pakistanaise qui a forcément laisser faire ou aider les talibans à leur prise de pouvoir rapide et spontanée. On peut imaginer que cette responsabilité lui confère, l'entraîne en quelque sorte un rôle ambigu duquel elle aura du mal à se débarrasser, à vrai dire. Voilà, j'étais rapide afin de vous laisser le temps de pouvoir nous poser des questions.